travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Je le maintiens. La solution est simple. Il faut transformer ceux que nous nommons barbares en citoyens pacifiques. Confions-leur pour les cultiver nos terres abandonnées. Non seulement ils produiront de quoi se nourrir eux-mêmes, mais je vous le certifie, plus tard ils enverront des vivres à Rome.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Cette émission a lieu, comme chaque année en octobre, dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois, en direct et en public, un public dont je salue ici la présence et la ferveur. Comme chaque année aussi, nous allons naturellement rendre hommage au thème qui a été élu pour cette 15e édition, à savoir les paysans considérés d'âge en âge. Entre passé et présent, il nous fallait choisir naturellement parmi bien des époques et bien des espaces. Je me suis arrêté sur la Grèce antique, assez lointaine pour que les contrastes avec notre temps soient instructifs, mais assez proche cependant pour que l'on découvre dans l'histoire de nos 20e et 21e siècles, en France et ailleurs, des échos remarquables à partir de ces temps-là. Maurice Sartre, que j'ai toujours grand plaisir à accueillir à ce micro, s'apprête à être mon complice ce matin. Ancien président du conseil scientifique du festival, professeur émérite à l'université de Tours et membre de l'Institut universitaire de France, rien que ça, il est un spécialiste reconnu de l'histoire de l'Antiquité, la Grèce au premier chef, mais Rome tout aussi bien. Rome vers laquelle nous ne nous interdirons pas, bien sûr, quelques échappées. Notre conversation est vouée, comme souvent, à s'organiser entre les réalités et les représentations que s'en sont faites les contemporains. Du côté des réalités, la grande question, entre autres, de la propriété des terres et des modes d'exploitation, celle de la participation des agriculteurs à la vie de la démocratie, celle de leur rôle dans la guerre et dans la paix. Et du côté des images, des représentations, la diversité de celles que les écrivains, les philosophes, les politiques se sont faites et ont renvoyées en leur temps de la paysannerie. Hésiode, Solon, Platon, Aristote, Xénophon ou encore sur la scène Aristophane, tous ont été conduits à évoquer, chacun à sa manière, les objectifs et le fonctionnement d'une démocratie rurale avec ses possibles dérives, ses vertus et ses périls. Assurément, nous vivons dans une France où les paysans, qui constituaient encore, je le rappelle, 42% de la population aux alentours de 1900 et 36% à la Libération, ne sont plus que 3%, oui, 3% aujourd'hui, bien loin d'une époque où toute la vie économique s'organisait autour de l'agriculture. Mais non pas sans que subsistent quelques nostalgies ou quelques mythologies qui prospéraient déjà, je crois que vous allez le comprendre et le voir, du côté de la Grèce antique, voici plus de 2 millénaires. Et en ouverture, pour la senteur et pour la tendresse des vers et pour l'huile promise, voici l'olivier, arbre de paix, l'olivier omniprésent.
Moi, un olivier, je suis passionné par l'olivier, vous voyez. Moi, c'est un symbole, un olivier, vous voyez. Un olivier, c'est l'arbre de paix, c'est l'arbre de vie aussi. Il ne meurt pas, un olivier. Hein, il vient à des millénaires, un olivier. Vous voyez, puisque quand on arrache des vieux oliviers, vous voyez, quand ça arrive, qu'on est obligé d'arracher des vieux oliviers, on trouve souvent sous les racines des pièces romaines. Alors, vous voyez que c'est pratiquement immortel, un olivier. Et puis quand il gèle la partie aérienne, on la coupe à ras et ça repart par des sarments. Donc pour moi, un olivier, c'est un arbre immortel.
C'est un arbre étonnant de beauté, toujours vert, toujours gris, frissonnant, faisant sa musique au moindre vent. C'est l'arbre de Pâques, c'est l'arbre à toutes les saisons. Dans Saint-Canin, il y a 2500 villas qui se sont construites. Et dans chaque villa a planté 2, 3, 4 oliviers pour le plaisir de l'arbre. et la beauté de l'arbre.
Alors, je vous montre là, vous voyez, deux pièces que j'ai trouvées en déblayant dans le moulin, vous voyez, dans les pierres, là, vous voyez. Alors là, ce sont deux pièces grecques, d'après ce qu'on m'a dit, et qui dateraient de entre 500 et 800 ans avant l'ère chrétienne, vous voyez. Ce sont les Grecs, comme les Romains par la suite. Vous voyez, ils marquaient l'époque d'implantation de quand ils rentraient dans l'arrière-pays provençal. Vous voyez, et par exemple, quand on arrache un vieux olivier aussi, c'est exactement la même chose. Souvent, sur la racine, on trouve des pièces romaines. Ils marquaient l'époque de plantation. Je crois qu'ils ont hérité ça des Grecs, qui bien avant eux faisaient pareil. Vous voyez, puisque dans le moulin, j'ai trouvé ces deux pièces là. Il y a une, donc, et vous voyez, c'est la tête d'une déesse, vous voyez.
Peut-être Athéna.
À Paris, on ne m'a rien dit, on m'a dit simplement que ça a daté d'environ entre 500 et 800 ans avant l'ère chrétienne, vous voyez.
Est-ce qu'on dirait qu'elle a un casque pointu?
Oui, et elle a un casque pointu, c'est vrai.
Maurice Sartre, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous faire entendre un extrait d'un reportage de Brigitte Masson, qui était effectué près de Montpellier. Consacré aux oliviers, qui était extrait de l'émission La matinée des autres, le 23 janvier 1996. Je pense que je n'ai pas besoin de préciser pourquoi j'ai choisi ce texte, puisque c'est à la fois la très longue durée de l'olivier, qui lui-même vit sur un rythme très lent, il peut être centenaire, c'est l'apparition de ses pièces, c'est hier, aujourd'hui, et puis c'est Athéna, quelque part. Vous ne détestez pas Athéna, la déesse de la sagesse?
Non, mais en même temps, parler de l'olivier, commencer par l'olivier pour parler des paysans grecs, c'est un choix particulièrement judicieux, non seulement parce que l'olivier, effectivement, peut avoir une vie très très longue. On ne manque pas en Grèce, dans quelques endroits, de vous montrer des oliviers qui existaient déjà peut-être au temps de Platon. On peut en douter, mais enfin, bon, ça fait partie des mythes. Et surtout parce que l'olivier, c'est l'arbre symbolique de la Méditerranée, mais plus encore, je crois, du monde grec. Et Athéna est liée, évidemment, à l'olivier, puisque c'est parce qu'elle a offert aux Athéniens l'olivier que les Athéniens auraient choisi de la prendre comme déesse protectrice. Donc, sur les pièces dont parle ce monsieur, on corrigera juste, on rappellera que la monnaie étant inventée autour de 600, les pièces ne doivent pas dater de 800 avant Jésus-Christ.
Voilà, mais le régent de collège qui corrige les mauvais élèves.
Voilà. mais tout ça, il n'y a pas d'importance. Ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment l'arbre emblématique du monde méditerranéen. Ça ne veut pas dire que c'est la culture unique, loin de là, mais tout le monde connaît les trois piliers de l'agriculture méditerranéenne, l'olivier, la vigne et les céréales.
Ils vivent d'ailleurs sur des rythmes différents et par conséquent complémentaires.
Et sur des sols différents aussi, et ce sont des cultures effectivement complémentaires.
La vigne, il faut attendre 3 ans, peut-être l'olivier, 10 ans.
Oui, une dizaine d'années pour qu'il rapporte, oui, bien sûr. Et les céréales, c'est annuel.
Les céréales, c'est beaucoup l'orge, le millet, le blé?
Le blé, il y a des variétés très différentes. Ce qui est sûr, c'est que le blé, on le cultive surtout parce que c'est indispensable, mais la plus grande partie du monde grec, mais pas toute, parce que là aussi, il faudrait évoquer la très grande diversité des paysages et des conditions naturelles, ce qu'on n'a pas le temps de faire ici, parce qu'on ne veut pas parler tellement de l'agriculture, mais plutôt des paysans, ce qui n'est pas exactement le même sujet.
En effet.
Il y a quand même des conditions naturelles très différentes entre les grandes plaines d'Asie mineure, c'est la Grèce, je vous rappelle, l'Asie mineure.
Oui, les Grecs à l'époque, ils sont allés. Platon parle des Grecs qui sont comme des grenouilles autour d'une mare.
Exactement, la mare en question étant la mer Égée. Mais même dans la Grèce balkanique, il y a des régions de plaines extrêmement riches, fertiles, comme la Béotie, comme la Thessalie. Et puis, il y a ces zones très montagneuses où les cultures sont beaucoup plus difficiles, l'Attique, les îles, par exemple, ou la plupart des régions du Péloponnèse.
Alors, comment s'organise la propriété de ces terres? Qui les cultive? Peut-être c'est difficile de généraliser, mais disons tout de même le plus souvent.
Je pense qu'on peut brosser à grands traits une sorte d'évolution dans le temps. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, aux origines, je veux dire par là à l'époque archaïque, rien ne prouve qu'on ait essentiellement une grande propriété aristocratique avec des grands domaines. Pas du tout. On pense que c'est plutôt une période de petite et moyenne propriété. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens plus riches que d'autres, bien entendu. Il y a sûrement des gens même beaucoup plus aisés que d'autres. Mais on a plutôt une évolution qui mène d'un émiettement de la propriété à une concentration foncière au fil du temps. Si on prend dans la longue durée, je veux dire de l'époque archaïque jusqu'à l'époque impériale romaine, parce que l'histoire grecque, elle ne s'arrête pas tout d'un coup à la conquête d'Alexandre. Hein. on est bien d'accord là-dessus. On assiste à un émiettement de la propriété. Ça paraît contradictoire ce que je dis, mais je vais m'expliquer tout de suite. Un émiettement de la propriété qui conduit à la concentration. Parce que l'émiettement trop grand provoque l'endettement des petits paysans qui sont obligés de vendre parce que les terres ne sont plus rentables. Et on voit que, d'une manière générale, je brosse là à grands traits, on a plutôt un mouvement de concentration foncière qui parfois est très lourd de conséquences comme à Sparte. Et on a de très grands domaines, de très grandes propriétés, surtout à l'époque hellénistique et à l'époque impériale romaine.
Mais déjà, on nous dit que Solon était intervenu dans ce domaine et avait fondé sa prospérité et sa longue mémoire de très sage dirigeant sur le fait qu'il avait su maîtriser cette...
Il avait su maîtriser ce phénomène et probablement que ces réformes ont eu un effet sur une assez longue durée parce qu'on s'aperçoit... Alors, il faut rappeler d'abord ce qu'a fait Solon. Solon a pris une mesure, il a fait pas mal de réformes au tout début du VIe siècle, dans les années 590, mais une mesure phare qui est restée dans les annales, parce qu'on a un texte où Solon lui-même le dit, c'est qu'il a interdit l'esclavage pour dette et il a libéré les paysans qui avaient été réduits en esclavage pour dette et qui étaient devenus soit des esclaves, soit, dans le meilleur des cas, pour ceux qui n'avaient pas été réduits en esclavage, qui étaient devenus des journaliers, des manœuvres au service de leurs créanciers, en réalité. Et Solon dit très bien, la terre nourricière, la terre qui en même temps est la mère des dieux, je l'ai libérée, j'ai arraché les bornes qui étaient plantées partout, bornes qui marquaient cet endettement, qui étaient, c'était en quelque sorte les contrats, si vous voulez, d'endettement, et d'esclave qu'elle était, je l'ai rendue libre.
C'est une des réformes agraires, en somme, les plus notables de l'Antiquité, qui en a connu plusieurs. Je vois dans la vie de Solon, de Plutarque, qu'en même temps, comme beaucoup de gens modérés, ils n'avaient pas satisfait les uns et les autres, puisque Plutarque écrit « Il ne satisfit aucun des deux parties, il mécontenta les riches en annulant les contrats, et plus encore les pauvres en se refusant à partager les terres, comme il l'avait espéré, et à uniformiser et égaliser absolument les fortunes, comme l'avait fait Lycurgue. » C'est difficile de gouverner.
Ben oui, ça je vous en laisse la responsabilité, vous en avez plus l'habitude que moi.
Alors continuons, si vous voulez bien, à évoquer la manière dont on travaillait cette terre. Et dites-nous quelles étaient les situations des uns et des autres, parce que ce n'était pas la même chose d'être esclave. Est-ce que c'était pire d'être esclave que petit travailleur journalier? On disait les têtes, un peu les prolétaires, T-H-E-T-S, oui. sans terre. Quelle était la situation des uns et des
Alors,
autres?
Alors, la condition des paysans est extrêmement variable, effectivement. Je crois qu'il faut dire un mot d'abord qu'une masse de gens qui travaillent la terre sont des esclaves. Mais par définition, l'esclave est défini par son statut juridique, c'est-à-dire celui d'esclave, plus que par sa fonction. Et donc, quand on parle des paysans, on ne pense pas tellement aux esclaves. Les esclaves, ils appartiennent, j'allais dire, à l'outillage de la ferme. Hein. Ils n'ont pas d'initiative, en quelque sorte. Donc, il y a quand même des esclaves qui travaillent. Il y a surtout beaucoup de petits paysans, propriétaires ou non propriétaires, mais à l'origine surtout probablement propriétaires parfois que d'un champ, d'un jardin, pas grand-chose, et qui éventuellement peuvent se louer leurs bras au moment de la cueillette des olives, au moment de la moisson, etc. Qui travaillent seuls avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants éventuellement.
Comme dans la tradition rurale française.
Absolument, absolument. Et avec éventuellement un ou deux esclaves. Il y a des paysans plus aisés, qui possèdent un attelage, qui vont posséder une charrue, par exemple. Et il y a au sein de la paysannerie des hiérarchies. Et puis, il y a quand même aussi des gens qu'on ne peut pas traiter de... qu'on ne peut pas exclure de la paysannerie parce qu'ils gèrent un domaine. Un grand propriétaire, malgré tout, qui est conscient, c'est pas simplement un rentier du sol qui vit à Athènes dans une maison luxueuse et qui se contente d'encaisser les bénéfices.
Ce ne serait pas comme un grand propriétaire de la Brie ou de la Beauce qui vivrait dans le 16e arrondissement à Paris, en somme.
Peut-être, mais comme je ne les fréquente pas spécialement, je ne sais pas très bien comment ils vivent.
Nous n'allons pas vous entraîner dans les dédales de votre vie privée, Maurice Sartre.
Merci pour cette discrétion. Mais... on a là des grands propriétaires donc, qui font le tour du domaine, qui distribuent le travail, qui décident surtout des plantations. On va mettre du blé à tel endroit cette année, et puis on va faire ceci, on va faire cela. Donc, on a un monde paysan qui est extrêmement varié, différencié. Ce qu'il importe bien de comprendre, c'est que ce monde paysan, d'abord, représente la grande masse de la population. Là, on a évoqué 2-3 fois le nom d'Athènes, mais Athènes n'est qu'une goutte d'eau dans le monde grec, même si c'est une cité considérable.
Belle goutte.
Oui, c'est une belle goutte, et combien fertile. Mais en même temps, c'est un peu une exception. En fait, on est dans un monde rural à 80 ou 90%, et les cités ne sont que de gros bourgs habités par des paysans. Même Athènes est habitée par des paysans. Simplement, l'Attique a un vaste territoire, démesuré par rapport aux autres cités grecques, enfin à la plupart des autres cités. On est à 2500 km², alors que 75% des cités grecques font 100 km. C'est rien du tout, 100 km².
Alors pour l'historien, il y a toujours la question de du déséquilibre éventuel naissant du déséquilibre des sources, déséquilibre de l'analyse, un peu comme dans la France du 19e siècle ou du début du 20e, on connaît surtout les paysans par le regard des citadins et des romanciers, les paysans de Balzac ou la terre de Zola, et ça n'est pas toujours très favorable. De la même façon, à l'époque, ce sont souvent les citadins qui regardent les paysans, et sans indulgence. Je vais vous lire un des caractères de Théophraste. Vous savez, Théophraste était cet élève de Platon et d'Aristote qui a vécu pour l'essentiel au IVe siècle et qui a précédé une tradition qui va en France se déployer avec la Bruyère. Les caractères de Théophraste. Voici ce qu'il écrit. La rusticité est, semble-t-il, une ignorance repoussante. Et voici quel genre d'homme est le rustre. Un homme à boire sa soupe à la sarriette avant d'aller à l'assemblée et de dire que rien ne se sent meilleur que la sarriette. Il porte des souliers, trop grands pour ses pieds, il bavarde avec une grosse voix, et en s'asseyant, il retrousse son vêtement au-dessus du genou, en sorte qu'on voit sa nudité. Dans les rues, rien ne l'émerveille, rien ne le surprend, mais qu'il aperçoive un bœuf, un âne ou un bouc, c'était avant les salons d'agriculture en ville, et le voilà planté en contemplation. À l'occasion, il prend quelque chose dans son cellier, mange comme un vorace et boit sans eau. Il entreprend en cachette la boulangère et l'aide ensuite à moudre ce qu'il faut de farine pour lui et pour tous. Tout en déjeunant, il va donner à manger aux bêtes de trait. Il déjeune tout en nourrissant les bêtes, ça c'est très mal vu depuis la ville. Reçoit-il de l'argent de quelqu'un, il refuse les pièces, disant qu'elles sont trop légères et en réclame d'autres à la place. A-t-il prêté un arrière, une corbeille, une faux, il n'endort pas de la nuit. Au bain public, il chante, il met des clous à ses chaussures. Fin de citation.
Oui, portrait du rustre. Là, on est évidemment dans les images. Le problème pour saisir les paysans, effectivement, c'est qu'eux-mêmes n'écrivent pas, ou peu, ou rarement, ou en tout cas, on n'a pas gardé des traces. Et donc, on a là des œuvres littéraires, donc il y a ce filtre, il y a le filtre de la littérature, il y a le filtre de la ville. Il y a le filtre de gens qui, en fait, on peut pas de contact direct avec la campagne. Et puis, c'est un portrait à charge. Après tout, Théophraste, c'est comme Aristophane lorsqu'il nous parle des femmes. On n'est pas obligé de croire tout ce qu'il nous dit.
Ah bon, ben tant mieux.
Donc, là, on voit très bien qu'on insiste énormément, évidemment, sur la rusticité. Il fait tout à l'envers par rapport aux citadins. Il se promène dans Athènes, où il y a des monuments superbes, mais ce qui arrête son regard, c'est un âne, un bouc ou un chien, peut-être, de race. Donc, je crois que c'est des images forcées et qu'on n'est pas obligé de croire.
Mais comme dans notre France ou dans notre Europe contemporaine, on voit souvent se juxtaposer ces regards critiques, se combiner ces regards critiques et en même temps une espèce d'idéalisation de la nature. Il y a toujours un double courant. On voit déjà cette idée si fréquente et si facilement relevée également de la littérature, vous savez, avec des bergers, des bergères qui s'embrassent en chantant des églogues sous les ormeaux. Et puis cette idée plus forte, probablement, plus forte que la terre apporte vraiment le meilleur de la civilisation. Je vous ai choisi une chanson, il faut toujours une chanson, donc encore dans ce détail. et notre public serait déçu si nous ne leur en offrions pas une. Celle-ci, c'est une chanson de Richepin et Badet qui est interprétée par André Dassary en 1941 dans l'atmosphère de... vous êtes content. Dans l'atmosphère, naturellement, de Vichy. Nous reviendrons sur Vichy. Et qui s'appelle Semons le grain de la lumière. Belle image.
Sur le monde nous versera l'or pur de ses rayons, on verra jaillir la moisson blonde que le travail donne aux sillons. Nos cœurs palpitent d'espérance, car rien non plus jamais n'arrêtera le destin sublime de la France, où toujours la gloire germera.
Au travail.
Semons le grain de la lumière, semons le grain de la beauté, de la terre nourricière, jailliront les fleurs de liberté. Gaiement pour la France éternelle, donnons nos cœurs, donnons nos bras, la plus belle pour nous c'est elle. C'est par nous qu'elle vivra. Chacun de nous fera sa tâche, et nos enfants plus tard feront pareil. Nos couleurs pourront flotter sans tâche, amis, c'est l'heure du réveil. Notre idéal doit nous conduire, notre avenir se trouve entre nos mains. Soyons fiers d'avoir à le construire, bâtissons la France de demain.
Au travail.
Semons le grain de la lumière, semons le grain de la beauté, de la terre nourricière, jailliront les fleurs de liberté. Aimons pour la France éternelle, donnons nos cœurs, donnons nos bras. La plus belle pour nous c'est elle, c'est par nous qu'elle vivra.
André Dassary, 1941, vous pourriez traduire ça en grec antique, Maurice Sartre ?
Ça serait un petit peu compliqué, mais on peut toujours faire du thème grec, oui. Mais c'est une chanson très intéressante pour des tas de raisons. D'abord, il y a des mots qu'on retrouve qui sont puisés directement dans le vocabulaire antique. La terre nourricière, on dirait que c'est une banalité, la terre nourricière, elle est partout nourricière. Mais c'est quand même...
Sauf quand elle est aride.
Oui, bien entendu, mais même quand elle est aride, elle n'est jamais... complètement pas nourricière.
Non, mais votre expérience agricultrice, non, vous voyez.
Non, peut-être mon habitude du désert, mais c'est autre chose. Mais c'est très intéressant. Ce qui est, je trouve, intéressant dans cette chanson aussi, laissons de côté toute la tradition française, une certaine droite française d'exaltation de la terre, on y reviendra peut-être, c'est le lien qui s'établit entre la terre et la patrie, d'une certaine manière, entre la terre aussi et la citoyenneté. Et ça, ça plonge ses racines directement dans des idées qui sont parfaitement grecques. L'idée de la terre nourricière, encore une fois, c'est commun à l'humanité entière, évidemment. Mais les Grecs ont créé entre la citoyenneté et la terre des liens qui n'existent pas souvent ailleurs et dans d'autres civilisations. Je pense à la Mésopotamie ou à l'Égypte où on a des structures étatiques autres. Les Grecs ont créé un double rapport qui peut s'inverser. Je m'explique. Je veux dire par là qu'il y a un certain nombre de cités grecques où on ne peut être citoyen que si on est propriétaire foncier. Je ne dis pas forcément paysan directement, mais propriétaire foncier. Ce qui veut dire quand même, pour l'essentiel, paysan.
C'est un système censitaire, d'une certaine façon, que nous avons connu aussi en France.
Oui, mais censitaire...
Au XIXe siècle.
Oui, mais à ceci près que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, puisque le sens, en général, c'est un taux, en quelque sorte, c'est vraiment la nature d'une propriété. C'est-à-dire qu'on n'est pas citoyen... On peut être riche, mais on n'est pas citoyen ou on n'a pas accès aux magistratures, où il y a des limitations, par exemple, si on n'est que commerçant.
Ça renvoie aussi à une donnée de notre démocratie actuelle, parce que pour être élu dans un conseil municipal, il faut pouvoir posséder quelque chose dans la commune, alors que pour être député, puisqu'on est député de la France entière, ce n'est pas nécessaire.
Oui. Alors, il y a donc cette situation où on est obligé de posséder une terre, et parfois un certain type de terre, comme à Sparte, il y a des lots civiques, et il faut être propriétaire de ce lot civique pour pouvoir être pleinement citoyen. Et puis, il y a des situations qui paraissent inverses, mais où la terre est également impliquée, comme à Athènes, où là, on n'a pas besoin d'être propriétaire foncier et des paysans pour être citoyen, mais la propriété foncière est réservée aux citoyens. Seuls les citoyens peuvent être propriétaires fonciers. Ce qui veut dire que dans tous les cas, en Grèce, il y a entre terre et citoyenneté un lien fort qui parfois est conduit à des situations catastrophiques. Dans les deux cas, par exemple,
À Sparte,
il faut être propriétaire d'un lot. Or, on sait que Sparte a vu se développer un mouvement de concentration foncière formidable dès la fin du 5e siècle, mais surtout dans le courant du 4e siècle. Et le résultat, c'est que Sparte est passée en un siècle de 9000 citoyens à 1500. Et peut-être même au milieu du 3e siècle, il n'y en a plus que 700. C'est-à-dire que ces citoyens qui sont aussi les soldats, il ne faut pas l'oublier.
Nous y viendrons, rassurez-vous.
On y reviendra.
Si je puis dire.
Ça veut dire que tout d'un coup, l'armée spartiate n'existe plus, ou elle se constitue plus que de mercenaires ou de gens qu'on arme autrement, mais elle n'est plus l'armée civique traditionnelle.
Alors qu'Athènes ?
Athènes, La catastrophe n'est pas la même, si j'ose dire. C'est plutôt qu'une masse de gens n'ont plus le même lien avec la terre et n'ont plus le même goût de la défense et de la guerre, de défendre un sol qui est le leur, parce qu'ils sont plutôt artisans ou parfois, dirais les mauvaises langues comme Aristote ou Platon, des assistés de l'État.
Des assistés, c'était Aristote comme ancêtre de Romney, vous pensez, qui disait que 47% des Américains sont assistés. Vous croyez que Romney le sait, qu'il a ses antécédents prestigieux ?
Je n'ai pas posé la question à Mitt Romney parce que je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je ne manquerai pas de lui poser la question à l'occasion.
Nous organiserons cette occasion.
Voilà. Mais je crois que, sérieusement, à Athènes, et certains s'en plaignent, comme Xénophon qui est lucide, il dit, chez nous, ce qui est désastreux, c'est que les métèques, les étrangers qui sont venus s'installer et qui pourtant participent pleinement à notre vie, certains sont là depuis des générations, il leur manque cette possibilité de s'intégrer complètement à notre cité parce qu'on leur refuse le droit de posséder la terre. Sauf exception, et à Athènes, par exemple, il y avait un des grands honneurs qu'on pouvait rendre, un des grands privilèges qu'on pouvait accorder à un étranger qui avait rendu des services éminents à Athènes, c'était de lui donner le droit de ce qu'on appelle l'enkthésis, c'est-à-dire le droit de posséder une terre et une maison.
Donc parce de devenir citoyen.
Non, il ne devenait pas citoyen.
La Révolution française a été plus généreuse puisqu'elle a accueilli des étrangers, n'est-ce pas, ceux qui nourrissaient un vieillard.
Mais c'est 2000 ans après.
Oui. Ah oui, mais vous ne m'interdisez pas des rapprochements. J'ai envie d'en faire un autre.
Non.
Évidemment, en vous écoutant, c'est avec la Troisième République où nous savons que la paysannerie française, je rappelais que c'était la moitié de ceux qui produisaient des richesses en France, vivaient de l'agriculture. Cette paysannerie a été au cœur de la source de l'établissement solide de la République en France, avec le tournant de Gambetta qui a persuadé aux paysans qu'on pouvait être républicains et paysans, avec un attachement à la chaîne, à la terre, qu'a représenté par exemple Méline, quand il a fait beaucoup de protectionnisme pour empêcher que les agriculteurs soient concurrencés de l'extérieur. On lui a beaucoup reproché, mais ça a solidifié d'une certaine façon la démocratie. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour la Grèce antique ?
Je crois que, en tout cas, les Grecs ont clairement l'idée que le paysan... Alors, Évidemment, on est dans une société où, de toute façon, on a forcément 80% de ruraux et de paysans. Donc, le problème ne se pose pas dans les termes de désertification, de fuite de la terre, etc., comme ça a pu se poser dès le 19e siècle en Europe. Mais ils ont sincèrement l'impression que le paysan fait un meilleur soldat pour des tas de raisons, de vie au grand air, tout ce que vous voudrez, mais aussi parce qu'il est, lui, personnellement attaché à une terre. Le paysan, il est attaché à ses oliviers. Revenons aux oliviers tout à l'heure, à ses vignes. Dans un texte, un paysan d'Aristophane dit « Moi, je veux la paix, mais croyez pas que c'est parce que j'aime les Spartiates. Moi aussi, ils m'ont coupé mes vignes. Je les déteste. Je voudrais que la terre s'effondre et que Sparte disparaisse quasiment dans les profondeurs du sol. Je les déteste parce qu'ils ont coupé mes vignes. »
Le crime le pire.
C'est le crime le pire. Pour un paysan, qu'est-ce qui est de pire que de brûler ses récoltes et surtout de brûler ou de couper les arbres qui vont mettre si longtemps à repousser? C'est un gros investissement.
Sur cet attachement qu'annonce d'ailleurs celui des périodes contemporaines, des paysans à leur terre, il est toujours vivant, bien sûr, en France et en Europe. On a un témoignage en quelque sorte en creux inverse lorsque Thucydide, dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, explique que, écoutant Périclès, les Athéniens se sont laissés convaincre de rentrer de la campagne avec leurs femmes et leurs enfants, avec leur mobilier domestique. Et Thucydide écrit « Comme la majorité avait toujours eu l'habitude de vivre à la campagne, cet exode se faisait avec beaucoup de difficultés. C'est avec une lourde peine qu'ils évacuaient leur maison et quittaient des sanctuaires qui étaient ceux de leurs pères depuis l'Ancien Régime. C'était aussi leur mode de vie qu'il leur fallait changer. » Et ce n'était rien de moins que sa cité que chacun abandonnait. » Fin de citation.
C'est important parce qu'il nous montre d'abord que, dans le fond, le paysan athénien, il est presque plus attaché à son village qu'à la ville, j'allais dire la ville capitale, qu'à Athènes. Là, on est au tout début de la guerre du Péloponnèse et Périclès veut mettre les paysans à l'abri face aux incursions des armées spartiates, et parce qu'ils sont déjà venus et justement ils ont coupé des arbres. Et donc il les fait rentrer derrière les murs. Alors l'espace athénien derrière les murs, c'est pas Manhattan ou Paris ou même Blois.
Nous sommes attachés à la concordance des termes, mais pas jusqu'à ce point.
Pas jusqu'à ce point. Et c'est donc en fait un espace qui est largement ouvert avec des champs, des jardins, des espaces non bâtis, bien entendu. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Mais on voit bien que ces paysans sont tellement attachés à leur petit village de la plaine de Marathon ou du Cap Sounion, parce qu'il y a là leur sanctuaire traditionnel, et ce que dit pas Thucydide, parce qu'il y a là leur tombeau de famille. Et les tombeaux de famille, c'est ce qui attache le plus sûrement les gens à un lieu, à un endroit où ils vont régulièrement. Et donc, ils sont extrêmement effrayés de venir vivre à la ville, d'une part. D'ailleurs, parfois, Aristophane fait dire à un paysan aussi, « Moi, la ville, je la déteste. » Non pas sans doute pour son rythme effréné ou je ne sais quoi, mais parce qu'il y a visiblement une autre culture, une autre manière de vivre, et le paysan en ville, il est perdu.
Est-ce que vous diriez à une plus petite échelle que cela peut annoncer certains de ces exodes qu'a connu le XXe siècle dans les pays émergents, dans les pays pauvres, sous l'effet soit de la famine, soit de la guerre, créant des prolétariats plus ou moins miséreux dans les capitales?
Alors, je ne crois pas qu'on puisse faire du tout de là, lors de rapprochement. Une concordance peut être une discordance.
Compris, Maurice Sartre. C'est pourquoi vous serez réinvité.
Merci, je m'en réjouis à l'avance. Je pense que les seuls cas où le paysan fuit vers la ville, c'est la guerre. C'est pour se mettre vraiment à l'abri. Bien sûr, je ne dis pas qu'individuellement, il n'y a pas des familles de paysans qui ont quitté la campagne pour venir à ville. Lorsque les paysans se retrouvent sans terre, ça existe. J'évoquais tout à l'heure en commençant ces mouvements de concentration foncière. La solution, c'est plutôt vers l'émigration, vers des terres nouvelles. Ça a été le mouvement de colonisation, même s'il y a d'autres causes à la colonisation grecque d'époque archaïque, mais ça a été le mouvement de colonisation a permis de donner des terres à des gens qui étaient sans terre. Et puis ça a été, après la conquête d'Alexandre, on l'oublie trop souvent, beaucoup de Grecs sans terre qui sont partis s'installer en Syrie, en Égypte, voire plus loin, en Mésopotamie, et certains jusqu'en Asie centrale. Là, le mouvement... Et d'ailleurs, les Grecs ne l'envisagent pas autrement. Dès le milieu du IVe siècle, un homme comme Isocrate demande instamment aux Grecs de s'unir pour faire la conquête de l'Empire perse, pas tellement pour battre les Perses ou quoi que ce soit, mais pour installer des paysans sans terre. Ce qui montre, à ce moment-là, qu'on est bien déjà dans un cycle ou dans un processus de concentration foncière qui laisse sur le bord du chemin beaucoup de paysans sans terre. Et on ne voit pas d'autre solution que d'aller prendre les terres des autres.
Cela évoque peut-être moins la colonisation récente que certains exodes dus à la famine. Par exemple, je pense aux Irlandais, après la terrible famine qui a frappé au milieu du 19e siècle et qui a rejoint les États-Unis d'Amérique. Mais je voudrais maintenant, Maurice Sarr, que nous en venions, dans l'ordre des images, des représentations, aux paysans conçus comme une sorte d'idéal politique chez les philosophes grecs. Toute cette mythologie qui entoure l'idée de la terre, non seulement nourricière, non seulement féconde, mais vraie. Et vous ne serez pas étonné que je vous fasse entendre un extrait d'un discours très fameux de Philippe Pétain, puisque vraiment, c'est à cette époque-là qu'on nous a dit que la Terre ne mentait pas. Philippe Pétain, qui prononçait le 25 juin 1940 et qui annonçait aux Français les conditions de l'armistice, dans les termes que voici.
C'est vers l'avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence. Vous serez bientôt rendus à vos foyers. Certains auront à les reconstruire. Vous avez souffert, vous souffrirez encore. Beaucoup d'entre vous ne retrouveront pas leur métier ou leur maison. Votre vie sera dure. Ce n'est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît. N'espérez pas trop de l'État, il ne peut donner que ce qu'il reçoit. Comptez pour le présent, sur vous-même, et pour l'avenir, sur les enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir. Nous avons à restaurer la France, montrez-la au monde qui l'observe, à l'adversaire qui l'occupe, dans tout son calme, tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous conduis. Français, vous l'accomplirez et vous verrez, je vous le jure, une France neuve surgir de votre ferveur.
Pour l'anecdote, Maurice Sartre, la formule « La terre, elle ne ment pas », formule qui est quasiment immortelle, significative en tout cas, d'une sensibilité très forte, et due à Emmanuel Berle, mais ce n'a pas été le nègre de Philippe Pétain en l'occurrence. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est essentiel à considérer, c'est l'esprit général. La France va se redresser à partir de sa paysannerie.
Je crois que là aussi, ce sont des images qui trouvent leur origine directement, et le fait que ce soit Emmanuel Berle qui écrive les discours de Pétain, je ne sais pas si Pétain avait lu Aristote, mais Emmanuel Berle sûrement.
Sûrement.
Ça, je crois qu'on ne peut pas en douter. N'est donc pas le fruit du hasard. Parce qu'il y a dans ce discours des échos évidents à la littérature, à la philosophie grecque, celle d'Aristote ou celle de Platon. Ce qui est très intéressant, c'est le lien qui est établi entre une réalité prosaïque, la terre, le travail de la terre, qu'on retrouvait tout à l'heure dans la chanson de Richepin et, j'ai oublié le nom de l'autre, de Badet.
Pas grave.
Qui était au travail, et on voyait bien ce lien qui était fait immédiatement entre donc, le travail de la terre, c'est le seul travail qui soit valorisé réellement. C'est pas, on ne dit pas au travail dans les usines, non, c'est le travail de la terre, et le renouveau moral. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre travail de la terre et morale. Et ça remonte, de fait, à l'Antiquité grecque, et j'allais dire que ça alimente directement le discours de Pétain. Ce discours, on le trouve déjà chez Platon. On le trouve chez Aristote. Alors, bien sûr, ça se fonde d'abord sur une réalité, j'allais dire économique, c'est que Platon, lorsqu'il fait les plans d'une cité idéale, n'envisage pas autre chose et donc que le travail de la terre pour ses citoyens, puisqu'on est dans un monde où, de toute façon, c'est la ressource numéro un. Bien. Mais malgré tout, Platon, comme Aristote, vivent à Athènes, connaissent Athènes. C'est une ville dont l'activité économique est bien plus diversifiée que ça. Jamais il n'y a un mot sur le commerce, sur l'artisanat, sur les échanges à longue distance, y compris les échanges de produits agricoles. Et la seule valorisation du travail qui existe, c'est le travail de la terre. Et on passe insensiblement d'une valorisation du travail de la terre à l'idée que le paysan, que le citoyen parfait, le citoyen idéal, c'est le citoyen paysan. Et lorsque Aristote, dans ses grandes entreprises de classement des régimes politiques, comme il a classé aussi bien des tas d'autres choses, établit des hiérarchies, pour lui, la plus belle des démocraties, c'est la démocratie paysanne. Et il dit une chose qui peut nous paraître presque choquant, tant que c'est dit avec une sorte de brutalité. Pourquoi, dit-il, c'est la meilleure des formes de démocratie? Eh bien, si on résume ce qu'il dit, c'est parce que le paysan est bien trop occupé à travailler pour s'occuper d'aller aux réunions de l'Assemblée. En gros, il le dit, on pourrait citer le passage, il dit pourquoi est-ce que le paysan, pourquoi cette démocratie-là est la meilleure des démocraties? Parce que le paysan manque de loisirs et il n'a pas de temps à perdre. Quand les cultivateurs et les propriétaires d'une fortune moyenne détiennent l'autorité suprême dans la politeia, c'est-à-dire dans la constitution, dans le gouvernement, ils gouvernent conformément aux lois. Grâce à leur travail, ils ont de quoi vivre, mais ils ne peuvent jouir de loisirs. Donc, ils ne viennent qu'aux réunions indispensables. C'est dit avec franchise et brutalité, mais c'est dit.
Un peuple dont on peut rêver, hein, celui qui est très discret et qui intervient, voilà, quand on a besoin de ses votes.
C'est exactement. C'est un peu, j'allais dire, le contre-pied de ce que Périclès dit ou que Thucydide fait dire à Périclès un siècle avant, dans l'oraison funèbre pour les morts de la première année de la guerre du Péloponnèse, cette phrase que moi je trouve admirable et que j'ai dit plusieurs fois que j'aimerais bien qu'on la mette, qu'on l'inscrive sur le fronton des mairies en dessous de liberté, égalité, fraternité.
On va dire ça au maire de Blois.
Par exemple, Périclès dit, nous les Athéniens, seuls de tous les Grecs, nous ne considérons pas qu'un citoyen qui ne s'occupe pas de politique est un citoyen tranquille, mais nous considérons que c'est un citoyen inutile. Eh bien, Aristote, on peut dire, prend le contre-pied. Et s'il fait l'éloge du paysan, parce que le paysan, d'abord en Attique, il habite parfois loin. Si vous venez de Marathon pour venir à l'Assemblée du peuple le matin, il faut vous lever de bonne heure, parce que vous avez quand même plusieurs heures de marche à pied ou à dos de mulet, peu importe, pour venir. Et puis, il faut rentrer chez soi le soir. Donc, pour Aristote, il y a cette impossibilité pratique de réunir trop souvent les gens. Donc, on fait confiance aux lois et aux magistrats qui gouvernent. Et on a là la meilleure des formes de démocratie. Et puis, on passe insensiblement à, je crois quand même, une sorte de réévaluation morale. Le paysan, par son genre de vie, a cette image d'un homme sain qui vit sainement. Alors, bien sûr, il y a l'ambiguïté des images. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure en lisant Théophraste, c'est parfois ce grossier personnage qui mange quasiment en soignant ses bêtes. Enfin, bon.
On trouve d'ailleurs la même image, la même description chez Aristophane. Écoutez cet extrait des Acarniens, acte 5, le paysan qui arrive à l'Assemblée. Et là, on est plutôt du point de vue d'Aristote que de l'autre. Moi, dit le paysan, toujours le premier des premiers, je viens à l'Assemblée, je m'assieds, et alors je suis comme tout seul, je geins, je baille, je m'étire, je pète, je rote, j'écris par terre, je m'arrache des poils, je fais des comptes, je lorgne vers mon champ, je soupire après la paix, la ville, je la déteste. Là, voilà, c'est mon village que je regrette. Lui ne m'a jamais dit... Casque pour le charbon, casque pour le vinaigre, casque pour l'huile. Il ne connaissait pas ce mot-là, son village. Il me fournissait tout ça de lui-même. Pas question de casquer.
Alors, la traduction de Victor-Henri de Bidour est merveilleuse parce qu'il a traduit des jeux de mots intraduisibles, évidemment. Le paysan en question, il faut le rappeler, il vient à l'Assemblée pour une fois, justement, parce qu'il juge que cette fois-ci, c'en est trop. Il vient, lui, en disant « Moi, je veux qu'on fasse la paix ». C'est pour ça qu'il dit casque tout le temps, à la fois... Vous savez, je crois qu'il y a un sketch de Fernand Reynaud comme ça aussi, où le paysan est effrayé parce qu'il faut toujours payer, alors que lui, il n'a pas l'habitude de payer puisqu'il produit ce qu'il mange.
C'est trop bête, vous ne m'avez pas cité ce sketch avant l'émission, je vous l'aurais offert.
Merci.
Ah, merci, non.
La prochaine fois. Mais ce paysan, donc, il vient et il, d'abord, on le voit... On a les deux versants ici, d'une certaine manière. À la fois, le paysan, il s'est levé très tôt. C'est pour ça qu'il arrive le premier à l'Assemblée, parce qu'il vient de loin. Donc, il s'est levé, il faisait nuit, il a fait le chemin de nuit, et il arrive. Tandis que les urbains, on le voit bien, ce sont des lève-tards, ils font la grasse matinée, ils vont arriver en retard, on va être obligé de les pousser pour qu'ils arrivent à l'Assemblée. Et puis, en même temps, il a cette vie saine, en quelque sorte. Il est à la fois brut de décoffrage, hein, il est là à s'arracher les poils du nez, enfin bref, etc. Et puis, c'est Théophraste. Et puis, en même temps, on voit bien qu'il y a aussi, chez Aristophane, une certaine tendresse pour ce personnage qui sait se lever de bonheur et qui vient quand ça vaut vraiment la peine de venir.
Alors, pour revenir un instant au maréchal Pétain, qui est peut-être le dernier soldat laboureur, le soldat paysan, en tout cas, qui s'affiche comme tel, cette question de la participation des paysans à la guerre, qui va être tellement évoqué, bien sûr, l'année prochaine ou en 2014, au moment de la commémoration de la barbarie de la guerre de 14-18, où les paysans ont joué un tel rôle. On trouve déjà beaucoup de réflexions chez les Grecs sur la capacité militaire de l'agriculteur, du paysan. Écoutez ces quelques extraits de l'éloge de l'agriculture de Xénophon. C'est un extrait de l'économique de Xénophon. Si l'on veut servir la cité dans la cavalerie, rien de plus capable que l'agriculture d'aider à nourrir le cheval à la maison, et si l'on veut servir dans l'infanterie, elle rend le corps vigoureux. La terre incite les cultivateurs à défendre leur pays par les armes. L'idée que comme ils sont habitués à protéger leur héritage, leur chance, cela les prépare psychologiquement à prendre les armes. Quel art, continue Xénophon, quel art nous rend plus capables que l'agriculture de courir, de lancer le javelot, de sauter? Quel art paye mieux de retour ceux qui le pratiquent? Le hasard fait-il que des troupes nombreuses de soldats obligent d'abandonner leurs travaux et leurs champs à des gens qui pratiquent l'agriculture et qui reçoivent une éducation forte et virile? Ces hommes à l'âme et au corps bien trempés, on aurait bien vu Pétain signer à propos de ce genre, ces hommes à l'âme et au corps bien trempés peuvent, si la divinité le permet, marcher sur le pays de ceux qui leur font abandonner leurs travaux pour leur prendre de quoi se nourrir. Souvent, en temps de guerre, il est plus sûr d'aller chercher la nourriture, les armes à la main, que de se la procurer en maniant les instruments aratoires. Souvent, l'agriculteur ne doit pas moins prodiguer ses encouragements à ses ouvriers que le général à ses soldats. Oui.
Le rapprochement est tout à fait éclairant. On pourrait compléter d'ailleurs ce texte par une autre description de Xénophon, où il met en parallèle effectivement le paysan qui mène cette vie aux grandes terres saines, qui provoque un développement corporel, qui fait le bon soldat, et au contraire l'artisan qui au fond de son échoppe sombre, obscure, vit toute la journée courbé sur son atelier et qui est donc difforme. D'abord il est blanc, j'allais dire comme une endive. Évidemment, Xénophon n'aurait jamais parlé d'endive parce qu'il ne connaissait pas l'endive. Mais enfin, il est blanchâtre.
Il est toujours aussi attentif à lutter contre l'anachronisme.
Bien sûr, c'est le travail de l'historien, nous le savons tous les deux. Mais il est courbé, il est bancal, il est tordu. Et on voit très bien que même... Alors qu'on sait très bien qu'il y a des tas d'autres métiers où on a besoin de vigueur. Après tout, un maçon, il est pas, ou un rameur sur des bateaux, ce n'est pas des gens qui mènent une vie tellement facile. Eh bien, on a malgré tout des images qui sont des images, ce qu'on appelle des topoi, c'est-à-dire des lieux communs littéraires qui sont ancrés dans l'imaginaire et dont on ne sort pas et qu'on retrouve effectivement jusque dans les textes de l'époque de Vichy, mais encore aujourd'hui dans une certaine droite et dans certains pays.
Je souhaiterais, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, Maurice Sarthe, que nous nous portions maintenant dans le cas de la Rome antique. Car évidemment, la situation propose des rapprochements évidents, et en même temps, il y a de grandes différences. En particulier, on peut peut-être prendre les choses par la fin, au moment où, si vous y consentez.
Bien sûr.
Nous pouvons, je pense, évoquer le moment où les barbares sont arrivés par rapport à une civilisation qui a longtemps été agraire. Une civilisation où, à l'origine, on a trouvé des comportements du type de Caton l'Ancien et qui sont également en Grèce. C'est-à-dire que c'était tellement mieux avant. Vous savez, c'était mieux avant. Les gens étaient austères. Aristophane, dans l'Assemblée des femmes, dit le bon vieux temps. Ah, le bon vieux temps où chacun venait apporter de quoi boire dans une gourde avec un quignon de pain sec, deux oignons et quatre olives. Alors, des siècles après, au moment de l'Empire, l'image peut être exagérée, celle d'une certaine décadence avec l'arrivée des barbares. Et la question se pose, bien sûr, savoir si on va les rejeter aux frontières ou si on va les accepter comme paysans pour remplacer ceux qui ont quitté la terre pour aller retrouver les stupres et les miasmes de la ville. Écoutez donc cet extrait d'un film. Quand nous parlons de l'Antiquité, nous faisons toujours, une fois ou l'autre, appel au péplum. Nous avons un peu moins d'archives, à vrai dire, pour la période contemporaine. La chute de l'Empire romain, ce très beau film d'Anthony Mann de 1954, avec James Mason, le même qui jouait l'espion magnifiquement de l'affaire Cicéron, vous vous rappelez, James Mason, qui interprète le rôle du philosophe Timonides. L'action se déroule au Sénat, à Rome, sous le règne de l'empereur Commode, on est en 185 après Jésus-Christ, et le philosophe Timonides, qui est un ancien esclave grec, prend la parole de la façon que vous allez entendre.
100 fois nous avons essayé de persuader ceux que nous nommons barbares combien il peut en coûter de faire la guerre contre Rome en brûlant leurs villages, en crucifiant leurs guerriers et en réduisant leur jeunesse à l'esclavage. Les incendies s'éteignent, on enterre les morts, les esclaves meurent peu à peu. Mais la haine que nous avons semée derrière nous subsiste. Faut cesser de faire la guerre.
Cesser de faire la guerre ? Alors que tes amis ne cessent de nous attaquer, c'est une trahison.
Je le maintiens. La solution est simple. Il faut transformer ces amis que vous me reprochez en citoyens pacifiques. Confions-leur pour les cultiver nos terres abandonnées. Non seulement ils produiront de quoi se nourrir eux-mêmes, mais je vous le certifie, plus tard ils enverront des vivres à Rome.
Oui, je suis d'accord, qu'ils cultivent ces terres. Qu'ils produisent des vivres, mais comme esclaves. C'est ainsi que nous avons toujours fait.
Niger avait autrefois 20 000 esclaves sur ses propriétés. Que sont-ils devenus? Tous sont devenus des affranchis. Pourquoi? Peut-être Niger est-il ennemi de l'esclavage. Hein? Non, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus avantageux d'avoir des esclaves. Les esclaves produisent moins que les hommes libres. Cherchons donc ce qui est à la fois profitable et juste. Accordons à ces gens le plus grand bien qui soit. Ne leur refusons pas le droit de jouir de la liberté romaine. La nouvelle se répandra dans le monde que Rome les a admis comme des égaux, et c'est seulement alors que nous aurons nos frontières humaines. La paix romaine que Marcus Aurelius avait promise.
Alors, Maurice Sartre, qu'est-ce que cela évoque pour vous à l'époque et dans notre contemporanéité ?
Bon, d'abord, c'est un extrait tout à fait passionnant, mais qui nous éclaire beaucoup plus sur le sentiment des libéraux américains vis-à-vis du travail et de l'agriculture, notamment sur cette idée qu'un homme libre, par nature, produit plus qu'un esclave. Ça reste quand même très largement à prouver.
Les Américains du Sud ont mis quelque temps à s'en persuader.
Par exemple. Mais
au 19e siècle, je veux dire.
Encore aujourd'hui, on trouve ça chez un certain nombre de collègues américains qui défendent des thèses qui ne sont pas forcément en rapport direct avec l'Antiquité. Bon, laissons ça de côté. Ce qui est intéressant, on est là dans un cadre totalement différent. Bien sûr, il y a à Rome toute une tradition aussi du citoyen paysan. Vous le rappeliez tout à l'heure avec Caton, qui de ce point de vue-là n'est pas différent d'Aristophane. Bon, je n'insiste pas sur l'idée du déclin parce que ça mériterait une émission en entier. C'est tout à fait autre chose.
Et d'ailleurs, les historiens détestent en réalité l'expression de déclin.
Oui, ça n'existe pas. Le monde se transforme, et il se transforme toujours, et il s'est toujours transformé, et ça continuera probablement encore quelques temps.
Sauf dans la tête de certains, éventuellement des vieillards.
Oui, puisque nous ne sommes pas, donc
sinon je l'aurais pas dit.
On n'est pas touché par ce défaut. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est dans un tout autre cadre qui est celui d'un empire. Et d'un empire où, effectivement, il y a un vrai problème qui est celui de l'abandon de certaines terres. Peu importe les causes ici, mais on le sait très bien, par exemple, pour l'Afrique. On a des exemples également dans d'autres régions de l'empire. Ce qu'il faudrait, ça me permet de faire juste une petite incise, c'est que ce qu'on a dit tout à l'heure pour la Grèce, c'était surtout Athènes, mais on a des situations extrêmement variées. Puis le monde grec, ce n'est pas qu'Athènes et ce n'est pas que l'époque classique. Mais comme nous n'avons que pas beaucoup de temps, on est bien obligé de réduire.
C'est toujours un autre poste de l'historien, nous le savons bien. C'est plus compliqué que vous ne pensez. Mais après avoir dit ça, on peut néanmoins aller
là,
à l'essentiel.
Là, c'est plus complexe. Je dirais tout simplement, oui, c'est plus complexe parce que l'Empire est immense. Et donc, le paysan à Rome, dans l'Italie, ce n'est pas du tout le paysan d'Afrique du Nord, le paysan de Syrie, d'Égypte ou de Gaule. Ça n'a rien à voir d'un nord à l'autre. Là, ce qui est dit s'applique visiblement au pays danubien ou rhénan. Et de fait, Timonidès traduit une réalité bien objective, bien connue, c'est que la pression aux frontières des barbares n'est pas une pression qui vise essentiellement à faire des razzias, à venir piller les richesses de l'Empire, mais c'est qu'il y a des gens qui voient là un pays prospère et qui voudraient bien venir s'y installer. Ça évoque peut-être des situations plus contemporaines, il faut bien le reconnaître, même si l'agriculture n'est plus tellement en cause. Et donc, en fait, on voit se combattre deux thèses ici. J'allais dire les traditionalistes qui vivent encore quasiment à l'époque de la République, transformons les barbares en esclaves et ils travailleront nos terres, nos grands domaines d'Italie. Et Timonidès, qui lui étant, il a un nom grec, vous remarquez, c'est un affranchi, vous l'avez dit tout à l'heure, défend une position tout à fait inverse. Associons ces barbares à notre prospérité, installons-les aux frontières et on aura là un rempart fait par, mais on retombe la même idéologie, par des paysans. Parce que ces barbares devenus paysans seront attachés à leurs terres et ils vont protéger leur terre qui est notre empire. D'autres barbares qui seraient plus violents, plus prédateurs, plus destructeurs en quelque sorte, le meilleur rempart, les meilleures frontières de l'Empire, c'est encore les frontières humaines avec l'allusion à Marc Aurèle. On est là au moment de la reprise des invasions dites barbares.
Et avec ce thème, on en trouve un autre toujours presque indissociablement, c'est le regard inquiet jeté en direction de l'exode rural. Et ça, c'est très contemporain. Rappelez-vous le succès, vous n'étiez pas né peut-être, mais le succès au début du XXe siècle du livre de René Bazin qui s'appelait « La terre qui meurt ».
Oui.
La terre qui meurt. C'est un thème qu'on trouve continuellement dans notre XXe siècle. Ça aboutit à Paris, au désert français, etc.
Oui, parce que c'est ce thème finalement qu'on retrouve déjà des Solon. Une terre qui est abandonnée, c'est un bout de la patrie en quelque sorte qui meurt, qui n'est plus défendu, qui n'a plus personne pour le défendre. S'il n'y a pas un paysan qui cultive une terre, il n'y a personne qui soit réellement attaché à cette terre. Et donc on voit bien là qu'il y a une sorte de continuité totale entre l'Antiquité grecque et effectivement la littérature même du XXe siècle ou du XXIe siècle.
Eh bien, à concordance des temps, Maurice Sarre, je ne déteste pas cette conclusion. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais célébrer une fois de plus, mais toujours avec bonheur, votre livre important qui s'appelle « Histoire grecque ». Important et extrêmement stimulant et en même temps, par certains côtés romanesques, « Histoire grecque ». Histoire grecque, vous avez juxtaposé un certain nombre de regards jetés sur certains moments clés de cette histoire que vous aimez, que vous connaissez si bien. Et le tout fait une mosaïque magnifique. Ça s'appelle Histoire grecque, édité au Seuil en 2006 et republié en poche, c'est donc aisément disponible, en 2009. Avec Anne Sartre-Fouria, avec Patrice Brun, vous avez dirigé d'autre part un dictionnaire du monde grec antique chez Larousse. En 2009, où naturellement on trouvera plusieurs entrées qui correspondent au thème que nous avons traité. Et puis, hommage soit rendu aussi au livre de Christophe Chandezon, qui s'appelle « L'élevage en Grèce », c'est un aspect important sur lequel nous n'avons peut-être pas suffisamment insisté, de la fin du 5e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ, aux éditions de Bocard en 2003. Et comme vous le savez, vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, ainsi que les références des documents que nous avons utilisés, y compris André Dassary. Et vous pourrez écouter, réécouter pendant 1000 jours et podcaster cette émission pendant un an. Samedi prochain, vous n'avez pas été sans noter, j'imagine, que du côté de nos amis britanniques, certains comportements ont provoqué des hauts shocking du côté de la belle-fille de la reine et du côté de la belle-fille de son... Enfin bref, Kate et du prince Henri, eh bien nous traiterons des heurts et des malheurs du puritanisme anglais avec Bernard Cotteret. C'était sous les applaudissements affectueux du public de... du public de la bibliothèque de l'abbé Grégoire à Blois. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée comme toujours par Patrick Molinier, avec le concours indispensable de Jeanne Guéroux et aussi de Nathalie Lempereur, avec Alexandre Martin, Patrice Klein et Gilles Manet à la prise de son décentralisée, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et avec Catherine Louis pour les archives INA. Et dans quelques instants, vous allez, comme chaque samedi, retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question.